RRI Alternative. Ioana Stancescu.
Née en Argentine et vivant en France, l'écrivaine Ariane Harvitz a été nominée en 2018 au prix international Booker pour son tout premier roman « Crève mon amour », traduit en roman par Liliana Plecha-Jacob pour les éditions Vellant. Dotée d'une plume impitoyable qui n'épargne personne et capable de jouer la fine observatrice des pires angoisses humaines, Ariane Harvitz a été invitée au dernier Festival international de littérature et de traduction littéraire Philite de Yach. Après un deuxième roman, dégénéré, traduit en roman par la même Liliana Plecha-Jacob pour les mêmes éditions Vellant, voici qu'un troisième roman, Perdre le jugement, vient de paraître chez Vellant dans la traduction de Cornelia Radulescu. Une occasion pour proposer à Ariane Harvitz un dialogue autour de ses livres, de ses personnages et de ses thèmes d'écriture. Je viens de lire votre roman Perdre le jugement. Et en fait, dans ce roman, vous racontez l'histoire d'une mère quelque part obligée d'enlever ses propres enfants après que la justice française les a confiés au père. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, on se heurte à ce sujet de la maternité, ce sujet en fait qui fait mal, qui provoque, qui laisse des blessures, mais qui résiste. C'est comme un mur chez vous, ce sujet de la maternité. J'aimerais bien parler un peu de ce thème que vous avez déjà exploré dans Crève mon amour.
Oui, tous les romans en fait. Hein. Oui, je ne sais pas pourquoi la maternité m'a inspirée autant. Aucune idée, parce que moi je ne savais pas. C'est lors de mon accouchement et c'est après, dans un état, je ne dirais pas des folies, mais des pertes de conscience, ou de rentrer dans une autre dimension, que j'ai compris que c'était le sujet littéraire pour moi par excellence. C'est tellement théâtral, tellement philosophique, et c'est une expérience autre. Je dirais pas comment, je sais pas comment la définir, la maternité qui m'a servi de...
Vous savez, nous, on dit que tout commence par une mère.
Ben oui, tout à fait.
Oui. Alors, une des choses intéressantes que moi j'avais personnellement remarquées dans la littérature contemporaine de nos jours, c'est que si on parle de la littérature écrite par les hommes, il y a plein de sujets. Je ne sais pas, ils peuvent parler de tout et de n'importe quoi. Tandis que si on bascule du côté des femmes, il y a quelques thèmes récurrents. Nous, les femmes, puisque moi aussi je suis écrivaine, on aime écrire sur des thèmes très précis. Je ne sais pas moi, on part de la place de la femme, on part de la maternité, on part de la sexualité, on part du couple. Comment voyez-vous la littérature contemporaine écrite par les femmes?
Je combats cette idée de réfléchir et de penser à la littérature par la division hommes et femmes. Je sais, c'est une axe, c'est une façon de la penser, mais j'essaye, c'est contradictoire parce que j'écris sur des sujets dits des femmes, mais je suis contre cette démarche de réfléchir à l'art autant que femme.
J'ai remarqué en fait, et surtout si on regarde par exemple la littérature contemporaine française écrite par les femmes, qu'il y a des thèmes récurrents. Si on parle par exemple de Annie Ernaux, si on parle de Camille Laurent, si on parle de Marie Pourchet, il y a toujours en fait des protagonistes féminines vues sous des angles que normalement les hommes, enfin les auteurs hommes, n'ont pas vu les femmes de cette manière. Et j'ai trouvé en fait que vos personnages féminins, quelque part, ça fait partie, on va dire, de cette génération de femmes. Des femmes qui sortent quelque part du rôle de femme, tel que ce rôle il est vu par la littérature.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ma démarche, l'opération de l'art, pour moi, c'est celle de la transgression. J'essaie vraiment de les pousser jusqu'à la limite. Et tout, la famille, le concept de la loi, la femme, le sexe, j'essaie de tout pousser jusqu'à la limite. Et c'est vrai qu'après, je ne sais pas si c'est une démarche en tant que femme, j'essaie de voir l'angle mort. Comme vous avez dit, là où personne essaye de regarder, là, l'angle mort, c'est parfait comme métaphore. J'essaye d'écrire là où on n'arrive pas à voir. Mais après, les femmes, mes personnages, ils sont parfois très masculines. Ils sont parfois presque des travestis. Ils se masturbent comme les hommes, comme les animaux. Ils sont mi-femmes, mi-hommes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas une conscience de la construction de mes personnages.
Moi, quand j'ai lu vos romans, j'ai pas du tout trouvé vos femmes masculines parce que moi, je me suis retrouvée dans vos femmes.
Et peut-être qu'on est...
peut-être que je suis masculine, je sais
oui,
pas.
Oui, on est des hermaphrodites, mentales, comme on dit. Il y a beaucoup de femmes qui avaient cette démarche dans le 19e siècle, le 20e siècle. Quand, lors de l'écriture, on est des hermaphrodites mentales. Et j'essaye de partager cette idée.
Par exemple, dans Crève mon amour ou dans Perdre le jugement, vous avez un type d'écriture assez intimiste, un discours construit sous la forme d'un monologue. Et quelque part, ça m'a fait penser au théâtre. Et je sais que vous êtes issu de ce milieu. Comment le théâtre influence chez vous l'écriture romanesque ?
Le théâtre fait tout. On appelle mes livres romans, on les classe dans les librairies à côté des romans, c'est très bien, pourquoi pas. Mais en fait, c'est des faux romans et c'est des fausses pièces de théâtre aussi. Mais c'est toute la scène, la visualisation des personnages, tout le conflit, tous les dialogues, ils sont construits dans ma tête, dans l'architecture de la dramaturgie. C'est de là qu'il vient. Mais après, il y a une force littéraire aussi dans le soi-disant style, je ne sais pas, dans la musique. La musique est littéraire, et tout le reste, c'est théâtral. Donc, c'est un mélange.
Crève mon amour sera bientôt porté à l'écran par Lynn Ramsey avec Jennifer Lawrence. Alors, avec quel sentiment vous attendez la sortie de ce film ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez peur que le film va perdre quelque chose de votre roman, justement de cette force de l'écriture ?
C'est vrai, les écrivains, en tout cas moi, je me sens très maniaque du contrôle, presque comme un dictateur, hein, quelqu'un de très mégalomane qui essaye de tout contrôler. D'ailleurs, l'écriture, c'est ça, c'est le contrôle absolu. Il n'y a pas de dérapage, enfin, on contrôle le mot, on contrôle la phrase. Si on ne le contrôle pas, bon, ça ne s'appelle pas écrire, ça s'appelle autre chose. Et tout le contraire, c'est les adaptations au théâtre, au cinéma, les traductions. On doit laisser aller le texte, c'est terrible, c'est un traumatisme.
Vos romans sont très bien traduits en romans.
Oui, ah bah, très bien. On ne peut pas, même si on essaye avec toutes nos forces, tout contrôler, justement. Et les variations dans les adaptations de théâtre et de cinéma. Et là, pour moi, c'est, de toute façon, c'est un miracle. Un roman qui est né dans l'obscurité, à l'ombre, dans la marginalité, entre guillemets, de la campagne française qui arrive à Hollywood, avec à Robert Pattinson ou à Jennifer Lawrence, c'est un acte de magie.
Bah justement, comment ce premier roman, il est né ? Pourquoi vous avez écrit ce roman ?
Oui, pourquoi, c'est ça, parce que j'avais 33 ans et l'âge de Christ, et j'avais essayé d'écrire, j'avais écrit des romans précédemment, je les savais comme il faut brûler, et j'avais essayé d'écrire des pièces de théâtre, j'avais tout essayé et ça ne marchait pas, j'étais bien consciente que ça ne marchait pas au niveau de la langue, et il fallait un jour ou autre créer, accoucher d'une langue singulière. Et donc je suis partie d'Argentine, après j'ai fait le deuxième voyage de Paris à la campagne, et je pense que c'est la campagne qui m'a donné les images, c'est la forêt, c'est l'introspection, c'est l'effet de me couper un peu du monde, un peu l'éloignement, comme un monastère, et c'est là, de là qui est tout est né. Je pense que c'est le cerf qui est apparu dans la forêt qui m'a donné
la... J'ai beaucoup aimé ce cerf.
Cette apparition, cette révélation m'a donné l'écriture. Il y a toujours un acte d'apparition.
Et c'est marrant parce que vous savez, à un moment donné, j'ai passé des vacances aux côtés de Saint-Cerf.
C'est vrai ?
Et là, j'ai croisé des biches.
Ah bah oui, oui, oui.
Il y a un truc miraculeux dans cette rencontre.
Je le sens encore aujourd'hui, quand j'arrête la voiture au milieu de, soi-disant, rien ou les châteaux. Mais il y a l'impression d'être au milieu de rien dans un autre siècle. Et c'est une apparition dorée, magique.
À un moment donné, vous avez déclaré dans un entretien en parlant de ce premier roman, la première phrase est sortie d'une traite, je ne l'ai jamais retouchée ensuite. Et j'avoue, en fait, moi j'ai un truc, si la première phrase me happe, je continue à lire. Comment écrivez-vous ? Vous écrivez d'un trait, vous écrivez par petites doses, vous avez des périodes où vous vous enfermez dans votre chambre pour écrire, ou comment ça se passe ?
La première phrase d'Écrève mon amour, c'est vrai, je ne l'ai jamais retouchée, moi et les éditeurs, et les traducteurs, et les traductrices, jamais on n'a retouché, même pas, bon, même pas un mot, c'est beaucoup, mais même pas la ponctuation, oui. Et ça a été comme ça, c'était aussi une révélation. Mais c'est une épiphanie que je cherchais depuis longtemps, donc c'est une épiphanie recherchée, et j'étais allongée comme le personnage sur l'herbe, et comme le personnage avait une angoisse terrible, et comme le personnage... Et je me suis réveillée, j'ai marché droit vers l'ordinateur et j'ai écrit cette première phrase du couteau, l'imagination d'un couteau dans la main. Après, comme j'ai écrit, j'ai des longues périodes à rechercher, que ce soit une atmosphère, le toucher, la langue, des longues périodes, comme une anthropologue, à chercher. Et après, c'est des essais, retravailler comme un atelier d'un peintre. retravailler.
Ça a duré combien l'écriture de ce roman ?
À chaque fois, c'est un peu 9 mois.
C'est trop... vrai ?
Oui, mais...
Mais c'est peu.
Oui. Non, mais...
Chez moi, ça a duré 4 ans.
Ah oui ?
À chaque fois, ça a duré 4 ans.
Ah oui, les accouchements, les grossesses.
Ouais, voilà, chez moi, c'est comme l'éléphant.
Les grandes grossesses. Mais oui, une chose, c'est écrire physiquement, parlant, matériellement, concrètement, mais l'écriture commence évidemment, mais psychiquement avant, tellement avant, 20 ans avant peut-être.
Est-ce que le fait de vivre en France influence votre univers littéraire ?
Oui, absolument corrompu, traversé et empoisonné par la France. Si c'était notre pays, ça serait une autre écriture. Tout rentre dans l'écriture, tout, c'est comme des mouches. Enfin, des mouches, peu importe, des abeilles ou des frelons qui sont autour de l'écriture. Comment ça ne va pas rentrer ? La langue rentre, la culture, les morts, la violence. Tout rentre, même l'air, le vent. Et si, tout est influencé par le français.
Votre roman « Perdre le jugement » m'a fait penser à l'anatomie d'une chute, en fait, à ce film de Justine Triet. Parce que bon, vous avez montré à quel point finalement le monde condamne et incrimine les femmes et les mères. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais bien vous inviter à développer un tout petit peu. Vous dites à un moment donné, aimer une mère, c'est comme entrer dans une secte.
Oui.
Pourquoi ?
Oui, la relation, c'est vrai, à la fin, presque dans la fuite. La mère a fait cette réflexion, l'amour d'un fils et de sa mère, l'amour pour une mère, c'est une secte, c'est comment... L'amour, c'est une secte, en fait, c'est une espèce de fanatisme enfermé, des huis clos. Oui, je pense ça, de l'amour.
Auquel on ne peut pas échapper.
Non, on ne peut pas échapper, des conséquences sont graves, c'est dangereux. Mmh. On est en risque, c'est dangereux, c'est extrême.
Vous êtes en quelque sorte attiré, on va dire, par les zones profondes du cerveau humain, par les dérapages. Qu'est-ce qui se passe quand la raison dérape et que nous n'arrivons plus à refaire surface? Vos personnages sont quelque part toujours au bord du gouffre, pour ainsi dire. Pourquoi cet intérêt pour le déraisonnement?
C'est la seule chose qui m'intéresse peut-être. Oui, c'est pour ça qu'il m'intéresse les personnages qui habitent à la campagne, dans des hameaux, dans des lieux complètement abandonnés, délaissés par ce siècle, par la modernité, par le politiquement correct, par l'idéologie de l'époque. C'est des personnages complètement perdus. Et c'est ça qui m'intéresse, ces 3 minutes où un homme ou une femme, hein, mais un être humain, est là, assis dans la voiture, et se réveille, il tue quelqu'un. Enfin, s'élève et il tue quelqu'un. Il aurait pu pas le faire, mais il l'a fait. Et maintenant, c'est un criminel. Mais 3 minutes avant, c'est pas du tout un criminel. C'est un homme assis dans la voiture en train de fumer une clope. C'est 3 minutes, 2 minutes, 1 minute de décalage entre la...
En fait, tout bascule.
Tout bascule. Ça peut être un crime ou autre chose, un viol ou encore mettre le feu à la maison. Mais ce basculement, c'est ça. Cet instant de basculement, cet interstice.
Finalement, c'est la fragilité qui vous intéresse. Puisque le déraisonnement, à mon sens, oui, il est aussi en rapport avec la fragilité.
On est tous tellement fragiles, non ?
On est d'accord. On peut tous basculer.
Ah oui, ça c'est sûr et certain. On n'est jamais à l'abri, jamais, jamais. Même
de
si
nous-mêmes,
on croit.
Même
si on croit à l'être, évidemment. Mmh.
Dans Grève, mon amour, il y a une autre phrase de laquelle j'aimerais bien parler un peu. Vous dites à un moment donné, j'aime penser au sexe, pas baiser. J'ai toujours été bonne en théorie et nulle en pratique. Voilà pourquoi je ne sais pas conduire, mais connais par cœur le code de la route. Alors, je trouve que de nos jours, il y a ce sujet de la sexualité féminine qui fait de plus en plus surface. Et enfin, on va dire, les femmes parlent de la sexualité dans les livres. Est-ce que c'est important d'avoir aussi des approches féminines par rapport à la sexualité qui n'a, finalement, elle n'est pas du tout romantique?
Oui, j'essaye tout le temps, sans vouloir, hein. Je n'ai pas été consciente, heureusement pour moi, je n'ai pas été consciente de cette démarche, mais tout le temps, j'essaye dans le roman, il y a la mise en place, enfin la mise en scène d'une sexualité pas du tout conventionnelle, pas du tout réglée, pas du tout, oui, au lit, ou le désir, l'orgasme, c'est autre chose, ça n'a rien à voir.
C'est pas animalique, quelque part.
Oui, c'est pas que c'est sorti, c'est pas que c'est trash, mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Il y a une scène où la femme va se masturber, et son mari, son homme aussi, chacun dans sa chambre, chacun ferme sa chambre, ils font semblant, ils ont la peau toute rouge après la masturbation.
Et vous savez, j'ai lu votre roman Crève mon amour juste après avoir lu le roman de Zerouya Chalev, Vie amoureuse.
Oui.
Et là aussi, il y a une relation d'amour qui est quelque part sortie complètement des sentiers battus. Je trouve que de nos jours, un aspect qui est évident pour la littérature écrite par les femmes, je ne dis pas féministe, mais écrite par les femmes, c'est qu'en fait, les femmes, finalement, en tant qu'écrivaines, elles osent. Tout simplement. C'est-à-dire, on n'essaie plus de défendre cette image de la femme parfaite, de la femme fragile, de la femme romantique. Mais finalement, nous sommes des êtres comme n'importe quel être. Donc finalement, si vous voulez, on est presque masculine, même dans les désirs sexuels.
Oui, parce que quelqu'un me disait, mais pourquoi ton personnage, aussi dans un autre roman qui n'est pas publié, La débile mentale, pourquoi elle se masturbe comme ça? Ça choque, ça dérange. Et en fait, j'essaye juste d'observer vraiment comme dans un laboratoire, observer le désir, sans le conditionner à des rôles sociaux, à des façons d'être, à une biologie, sans l'attacher à la biologie. Juste observer de quoi il est capable une personne, une femme qui désire. Elle est capable de tout, parce que ça se voit dans les romans. Elle est capable de tout. Il y a d'autres romans où elle tue. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne désire ? Qu'est-ce que c'est le désir? C'est une morphine? C'est un explosif? C'est une bombe à retardement? Qu'est-ce que c'est le désir? Et donc j'essaie d'explorer les conséquences.
Mmh. Sur quoi, bien sûr, si vous n'êtes pas superstitieuse, sur quoi travaillez-vous en ce moment?
Non, pas du tout la superstition, pas du tout. Et il y a des périodes de silence, comme dans la musique, des intervalles entre l'une musique et l'autre, il faut le silence. Tous les pianistes le disent, le silence est plus important encore que la musique, que les notes. Donc j'essaye de laisser un silence, et après peut-être que pour la première fois, je vais essayer d'écrire des contes, des histoires plus courtes. De toute façon, mes romans, ils sont très courts, mais des contes, comme ça je pourrais changer des paysages, des personnages, ça m'intéresse ça.
Comment avez-vous vécu l'expérience du Filit, du festival de Iași?
Ici? Ouais. Alors, je suis très heureuse parce que ma famille vient de la Pologne, de la Roumanie et de la Russie aussi. J'ai les documents, je suis en train de regarder les passeports, les vieux passeports, et j'adore le pays de l'Est. Je me sens beaucoup plus proche vraiment d'ici, même si je ne connais pas beaucoup de choses, il y a des mystères, mais beaucoup plus proche que les sociétés françaises ou allemandes ou espagnoles. Je ne sais pas. Donc je suis très intéressée. Et le festival est magnifique, très bien organisé. J'ai rencontré des auteurs un peu de partout, les langues, les mélanges des langues. Linguistiquement parlant, c'est exceptionnel.
Merci.
C'était Ariana Harwitz en dialogue avec Ioana Sănchescu depuis Iași, la ville qui a accueilli le Festival international de littérature et de traduction littéraire Filit.